Chapitre 4. Félicitations. Tandis que s'écoulait le dernier sédiment de l'étuvée humaine qui bouillait depuis le matin dans la salle des assises, Lucie Manette et son père, l'avocat et l'avoué de M. Darnay, s'étaient rassemblés autour de celui-ci et le félicitaient d'avoir échappé à la mort. Il eût été difficile, même à une clarté plus brillante, de reconnaître dans le docteur au visage intelligent, à la démarche pleine de noblesse, le cordonnier du faubourg Saint-Antoine. Cependant, il n'était personne qui, l'ayant regardé une fois, ne le regarda de nouveau, alors même qu'on n'avait point eu l'occasion de remarquer le timbre douloureux de sa voix grave et l'air distrait qui, par instant, voilait tout à coup sa figure. Non seulement une cause extérieure, un mot relatif à ses années d'agonie, évoquait des profondeurs de son âme cet état d'abstraction, mais il arrivait aussi que le nuage se formait de lui-même et répandait sur les traits de l'ancien captif une obscurité aussi incompréhensible aux spectateurs qui ne savaient pas son histoire que si, par un ciel pur, ils avaient vu la Bastille projeter son ombre sur lui malgré les 300 000 dont il en était séparé. Sa fille avait seule le pouvoir de dissiper ces nuages. Elle était le fil d'or qui, pour lui, rattachait ses beaux jours au calme dont il jouissait après sa misère. La voix, le regard, l'attouchement de Lucie avaient sur l'ancien prisonnier une souveraine influence. Pourtant, elle se rappelait qu'en certaines occasions, sa tendresse était restée sans effet. Mais ces occasions étaient rares, et chaque jour elle acquérait plus de certitude de ne pas les voir se reproduire. M. Darnay baisa la main de Lucie Manette avec ferveur, puis se retourna vers M. Stryver, qu'il remercia chaudement. Celui-ci avait à peine 30 et quelques années et paraissait en avoir près de 50. Il était gras et court, avait la voix haute, les manières brusques, les cheveux roux, le teint fleuri, une absence complète de délicatesse et une certaine manière de se pousser au milieu d'une société ou d'une conversation, en se donnant à lui-même un coup d'épaule qui faisait bien augurer du chemin qu'il ferait dans le monde. Ayant encore sa perruque et sa robe, le dit avocat se poussa en face de son client avec une telle violence qu'il écrasa l'innocent M. Laurie et le chassa du groupe où il s'installa carrément. « Je suis heureux de vous avoir fait sortir de ce mauvais pas, M. Darnay, » s'écria-t-il. « C'était une poursuite infâme, ignoble, mais qui par cela même n'en devait que mieux réussir. « C'est un service que je me rappellerai toute ma vie, » répondit le jeune homme avec chaleur. « J'ai fait tout mon possible, monsieur Darnay, et je crois que tout mon possible vaut bien celui d'un autre. » Il incombait à quelqu'un d'ajouter « beaucoup mieux ». Ce fut monsieur Laurie qui s'en chargea, peut-être avec l'intention de reprendre une petite place à côté de celle qu'il occupait tout à l'heure. « Est-ce bien votre façon de penser ?» demanda monsieur Stryver. « J'en serais fort aise. » Vous avez assisté au débat et vous devez vous y connaître. Vous êtes un homme d'affaires, un homme sérieux, un homme grave. En cette qualité, répliqua M. Laurie, qu'un petit coup d'épaule du légiste avait rejeté dans le groupe, je fais appel au docteur pour qu'il rompe cette conférence et nous ordonne le départ. Miss Lucie est très pâle, M. Darnay a subi une journée terrible et nous sommes tous sur les dents. « Parlez pour vous, » dit l'avocat, « parlez pour vous lorsqu'il s'agit de repos. Quant à moi, j'ai à travailler toute la nuit. »« C'est surtout pour Miss Manette et pour M. Darnay, » répliqua le gentleman. « Ne pensez-vous pas, Miss, que je peux même parler pour nous tous ?» ajouta-t-il en désignant du regard le docteur. La figure de celui-ci, dont les yeux étaient rivés sur Charles Darnay, avait une expression particulière qui, de plus en plus marquée, annonçait une défiance et une aversion mêlées de crainte. « Mon père, » dit Miss Manette en lui posant la main sur le bras. Il secoua l'ombre sinistre qui était sur son visage et se tourna vers sa fille. « Rentrons-nous ?»« Oui, » dit-il en poussant un long soupir. On venait d'éteindre les quinquets des couloirs, de fermer les grilles pesantes qui s'étaient closes avec fracas. Et l'affreux théâtre allait rester désert jusqu'à ce que le puissant intérêt qu'éveillait la potence, le pilori, la marque et le fouet, le repeuplât au point du jour. Lucie Manette, donnant le bras à son père et accompagnée de M. Darnay, qui marchait à côté d'elle, se trouva dans la rue, monta dans une voiture de louage et disparut avec le docteur. Quant à l'avocat, il les avait laissés dans le couloir pour aller au vestiaire. Pas un de ceux qui avaient assisté au débat ne s'était aperçu de la part qui avait prise le collègue de M. Stryver. M. Darnay lui-même ne s'en était pas douté. L'insouciant Carton, qui, depuis la fin de la séance, avait quitté sa robe et sa perruque, et dont l'aspect n'y avait rien gagné, ne s'était pas joint à ceux qui avaient félicité le prévenu. Il s'était appuyé contre la muraille, à l'endroit le plus sombre du couloir, et n'avait rien dit à personne. Puis il avait suivi le docteur et sa fille, toujours en silence, et les avait regardés jusqu'au moment où ils étaient montés en voiture. Après leur départ, il s'approcha de M. Darnay, qui causait avec M. Lorry. « Il paraît, dit-il à ce dernier, qu'on peut maintenant, sans se compromettre, adresser la parole au prévenu. Si vous aviez pu voir, M. Darnay, la lutte qui se passe dans l'esprit d'un homme respectable lorsqu'il est partagé entre le besoin de céder à l'impulsion d'un bon cœur et la nécessité de garder les apparences que lui imposent les affaires, vous vous seriez bien amusé. » « Monsieur, dit le banquier en rougissant et avec une certaine chaleur, vous avez déjà mentionné le fait, mais permettez-moi de vous faire observer que les gens qui sont au service d'une maison importante ne s'appartiennent en aucune occasion et qu'ils doivent penser aux intérêts dont ils sont chargés beaucoup plus qu'à leurs propres désirs. « Je le sais, répondit Carton avec indifférence. Ne vous fâchez pas, monsieur Lorry, vous êtes aussi bon qu'un autre, je suis même persuadé que vous êtes meilleur. » « En vérité, monsieur, reprit le gentleman que ces paroles n'avaient point calmé, je ne comprends pas l'intérêt que vous prenez à ma conduite. Excusez-moi si, en ma qualité de vieillard, je me permets de vous donner un conseil, mais je crois que vous feriez beaucoup mieux de vous occuper de vos affaires. » « Je n'en ai pas, répondit l'avocat. « Tant pis, monsieur, tant pis, c'est extrêmement regrettable. Je suis entièrement de votre avis. « Si vous en aviez, poursuivit le gentleman, vous en prendriez soin et… »« Il est probable que non, interrompit M. Carton. « Vous auriez tort, monsieur, s'écria l'ardent vieillard exaspéré par tant d'indifférence. « Les affaires sont une excellente chose et rien n'est plus respectable que le travail qu'elles nécessitent. M. Darnay a trop d'intelligence pour ne pas comprendre ma situation. » Et je le sais trop généreux pour craindre un instant qu'il m'en veuille de la contrainte que je me suis imposée à son égard. Bonsoir, monsieur Darnay, j'espère que c'est pour jouir d'une heureuse existence que vous nous avez été conservé. Je vous en renouvelle mes compliments bien sincères. Ici, porteur. » Monsieur Lorry, qui s'en voulait à lui-même autant qu'à l'avocat de ce mouvement d'impatience, monta dans sa chaise et fut transporté chez Tellson et compagnie. N'est-ce pas un singulier hasard que celui qui nous rassemble, monsieur Darnay, dit en riant Sidney Carton, lorsque le gentleman les eut quittés. Cela doit vous sembler étrange d'être ce soir dans la rue, seul avec votre sosie. C'est à peine si je me crois encore de ce monde, répondit Charles. Cela ne m'étonne pas, il y a si peu de temps que vous étiez sur le point d'aller dans l'autre, mais vous paraissez fatigué. En effet, je me sens très faible. Pourquoi diantre ne dînez-vous pas? « Moi, j'ai mangé pendant qu'on se demandait à quel monde vous deviez appartenir. Laissez-moi vous mener dans la plus proche taverne où puisse dîner un honnête homme. » Sidney Carton, prenant le bras de Charles Darnay, entraîna celui-ci jusqu'au bas de Lochgate, puis dans Fleet Street, et après lui avoir fait traverser plusieurs rues, le conduisit dans une taverne située au bord d'un passage. Arrivés là, ils furent introduits dans une petite pièce où Charles eut bientôt recouvré ses forces au moyen d'un repas confortable, arrosé d'un bon vin, tandis que Carton, assis en face de lui, dégustait sa bouteille de porto de son air moitié indolent, moitié impertinent. « Commencez-vous à sentir que vous êtes encore de ce monde ? » demanda-t-il à M. Darnay. « Je commence à le comprendre, mais je suis tellement brouillé avec ces lieux que je ne sais plus où je me trouve. » « Cela doit être une immense satisfaction, » reprit Carton avec amertume et en remplissant son verre. « Quant à moi, je n'ai pas d'autre désir que d'oublier que j'en fais partie. Excepté le vin de Porto, la terre, où je suis complètement inutile, ne me présente aucun bien. De ce côté-là, nous sommes loin de nous ressembler. À vrai dire, je crois qu'il est fort peu de côtés sous lesquels, vous et moi, nous nous ressemblions au moral. Qu'en pensez-vous ? » Troublé par les émotions du jour, et croyant rêver en voyant en face de lui sa propre image revêtir un caractère si différent du sien, Charles Darnay, fort embarrassé de la question, résolut de n'y pas répondre. « Maintenant que vous avez mangé, poursuivit l'avocat, pourquoi ne portez-vous pas un toast ?»« Quel toast voulez-vous que je porte ?»« Vous l'avez sur le bout de la langue ?»« À Miss Manette ?»« J'en étais sûr, cela devait être. À Miss Manette !» Tout en buvant à la santé de la jeune fille, M. Carton regarda fixement M. Darnay, puis il brisa son verre et sonna pour qu'on lui en rendît un autre. C'est une jolie femme. Il doit être doux de la conduire à sa voiture par la main et dans l'ombre, reprit l'avocat en remplissant le verre qu'on venait de lui apporter. Oui, dit le jeune homme d'un ton bref. Une jolie femme dont il est doux d'exciter la pitié et les larmes. Quelle impression cela fait-il? Est-ce trop payer la sympathie d'une aussi charmante personne que de risquer d'être condamné à mort, monsieur Darnay? Celui-ci garda le silence. Elle a été bien heureuse en écoutant les paroles que vous m'aviez chargé de lui dire. Non pas qu'elle les fait voir, mais j'en ai la certitude. » Cette allusion rappela fort à propos à Charles Darnay que l'insolent personnage avait fait preuve de générosité envers lui au moment de sa détresse, et il en profita pour détourner l'entretien en remerciant M. Carton de la bonté qu'il avait eue. « Je ne mérite pas vos remerciements, » répondit l'avocat. « La chose était facile et je l'ai faite sans y songer. Permettez-moi seulement de vous poser une question. Volontiers, je voudrais pouvoir vous accorder davantage en retour de vos bons offices. Pensez-vous que je vous aime ? À dire vrai, monsieur, répondit l'autre, singulièrement déconcerté, c'est une question que je ne me suis jamais faite. Adressez-vous là maintenant. Vous vous êtes conduit à mon égard en véritable ami, et cependant je ne crois pas que vous m'aimiez. Ni moi non plus, dit l'avocat. Votre réponse me donne de votre jugement une opinion très favorable. Néanmoins, poursuivit Darnay en se levant, je suppose qu'il n'y a dans vos sentiments pour moi rien qui puisse m'empêcher de payer la carte, et j'espère que nous nous séparerons sans aigreur, ni d'un côté ni de l'autre. Assurément, répondit Carton. Est-ce que vous avez l'intention de payer toute la dépense ? Si vous le permettez, répliqua Darnay. Dans ce cas-là, dit l'homme de loi au garçon, apportez une seconde bouteille du même, et ne manquez pas de m'éveiller à 10 heures. Après avoir payé la carte, Charles Darnay se leva et souhaita le bonsoir à M. Carton, qui, se levant à son tour, lui dit avec un air de défi. Un dernier mot, monsieur Darnay. Vous pensez que je suis ivre ? Je pense que vous avez bu. Vous faites plus que de le penser, vous en êtes sûr. En effet, monsieur Carton. Sachez-en donc la raison. Je suis un misérable goujat, sans position aucune. Je ne me soucie de personne, et personne ne se soucie de moi. Je le déplore, monsieur. Vous pourriez faire de votre intelligence un bien meilleur usage. Quoi qu'il en soit, monsieur Darnay, si vous m'êtes supérieur, n'en tirez pas vanité. Qui peut savoir ce que renferme l'avenir ? Quand il fut seul, Carton prit la chandelle, s'approcha du miroir qui pendait à la muraille, et s'examina d'un air attentif. « As-tu de l'affection pour cet homme ? » murmura-t-il à sa propre image. « Pourquoi l'aimerais-tu ? Parce qu'il te ressemble ? Mais que peut-on aimer en toi ? Rien, tu le sais depuis longtemps. Que le diable te confonde ! Quel changement s'est opéré dans ton âme ? Est-ce une raison pour s'attacher à un homme parce qu'il vous montre ce que vous auriez pu être et vous fait comprendre la grandeur de votre chute ? Si tu avais été à sa place, tu aurais eu le regard que ses yeux bleus ont attaché sur lui. Tu aurais fait naître l'émotion qui agitait ce visage. Allons, dis-le franchement, tu le détestes. » Il retourna près de sa bouteille y chercher une consolation, la vida tout entière et s'endormit, la figure appuyée sur ses bras, ses cheveux épars couvrant la table et la chandelle coulant sur lui.